disons-le franchement, les Blues de Saint-Louis auraient dû gagner en temps régulier hier. Jusqu'à 1:01 de la fin, ils menaient 4-3. David Perron, d'ailleurs, avait marqué 2 buts consécutifs. Mais ils ont cédé encore Logan Couture, 4-4, et on est allé en prolongation. Et à 5:23, c'est Eric Carlson des Sharks qui a tranché. Mais dans des conditions, évidemment, où les caméras montrent clairement que l'ailier droit des Sharks, Timo Meier, a touché la rondelle avec sa main et a semblé la diriger vers Carlson et un autre joueur des Sharks. Donc, évidemment, c'est une passe avec la main, un jeu illégal. Les Blues étaient furieux. Le gardien des Blues a quitté en donnant un coup de bâton sur la baie vitrée. Et on se dit, encore une fois, une controverse qui est en jeu dans un match de série éliminatoire. On a donc invité, encore une fois, Martin McGuire à se joindre à nous et à se joindre à Jérémy Filosa. Salut, Martin.
Allô, Paul.
Écoute, je criais. Je criais parce que... Non, mais il oui. y a des gens qui l'avaient peut-être manqué Absolument. En direct. Moi, je l'ai vu en direct. J'ai dit, hey, passe avec la main. Meier avait trébuché sur la glace. La rondelle a rebondi. Et on voit qu'il dirige la rondelle en direction de Carlson.
C'est clairement une erreur humaine qui a été commise sur la patinoire hier. Maintenant, il y a des mécanismes dans certains cas qui offrent la possibilité aux arbitres d'aller voir une reprise, qui offrent également le fameux centre de surveillance à Toronto, entre autres pour les rondelles frappées plus haut que la hauteur de la barre horizontale. Il y a des mécanismes automatiques. Je pense que les 4 arbitres qui étaient là hier, incluant 2 gars de chez nous, qui font de très belles carrières, le Johnny Murray et Marc Johannette, eux attendaient que Toronto fasse un signe. Ce signe n'est jamais venu. Il faut répéter dans la séquence des événements, Paul, que lorsque les arbitres se sont approchés, ils attendaient le coup de fil, mais Kay Whitmore, le superviseur de la Ligue, a indiqué hier qu'il n'y avait pas de situation de révision pour une passe avec la main. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, Paul, j'ai fait quelques coups de téléphone un peu partout pour discuter avec des gens qui ont de l'influence dans la Ligue nationale. Et étonnamment, ça m'a sidéré, Paul, d'entendre que, indépendamment de ce qui s'est passé hier soir, des gens bien au courant dans la Ligue et bien au fait qui ont de l'influence sur ces dossiers-là ne croient pas qu'il y a lieu de s'énerver avec tout ça, surtout d'augmenter les situations pour les reprises vidéo, ce qui fera en sorte d'augmenter le nombre de minutes de présentation des matchs de hockey. On me cite comme exemple actuellement 2 sports qui sont en constante évolution sur le plan télévisuel, le soccer que Jérémy connaît très bien et le basketball. Eh bien, ces 2 sports-là, Paul, sont en mesure de présenter des matchs dans des fenêtres d'environ 2 heures. Actuellement, la Ligue nationale est dans une fenêtre de 2h30.
Oui, et ça, en série, c'est presque 3 heures.
En série, c'est presque 3 heures. Alors, ce qu'on m'a dit aujourd'hui dans ma petite enquête, Paul, c'est que la haute direction de la Ligue n'ira pas vers des scénarios qui feraient en sorte que certains matchs de hockey, cette fenêtre-là, augmenterait à 2h35, 2h40.
Non, je comprends.
Un de mes interlocuteurs, je conclue là-dessus, Paul, m'a même dit, il dit, écoutez, on peut offrir 10 autres solutions pour les reprises vidéo demain matin, mais le problème, c'est que rendu à 23h50, les gens ne nous écouteront plus, de toute façon.
C'est un argument, mais Jérémy, Timo Meier, là, au moment où il fait comme semblant de faire dévier la rondelle, on voit très bien qu'il veut diriger une passe, la rediriger. Normalement, un des 4 arbitres siffle immédiatement. C'est un hors-jeu immédiat.
Écoute, Martin va pouvoir te le dire, là. Ça fait 20 ans que je suis le Canadien comme le second du groupe, le troisième de notre groupe au 98.5. Je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois qu'on a vu une passe effectuée avec la main en zone adverse et que les arbitres n'ont pas sifflé. Exactement. Donc, que ça arrive dans un match éliminatoire,
en prolongation
et qu'il y ait un but sur la même séquence, écoute...
Mais messieurs, je vous dirais ceci, puis je vous répéterai l'argument d'aujourd'hui que j'entendais concernant ce dossier-là. c'est que la Ligue nationale est la meilleure ligue de hockey au monde et les arbitres de la Ligue nationale sont payés comme les meilleurs au monde dans leur profession. Et c'est clair que pour certaines personnes dans la Ligue, encore une fois, je parle pas de mon opinion personnelle, mais dans la Ligue, il y a une pression qui vient avec ce métier-là, d'arbitrer dans la meilleure ligue. Il y a une pression de ne pas commettre d'erreur, du moins le moins souvent possible. C'est pour ça qu'on en a placé 4 sur la patinoire.
Ben oui.
Que les 4 sur la patinoire n'aient pas vu clairement ce qui est arrivé hier pour pas rendre une décision sur le banc, c'est une chose. Quand il faut réécrire le livre des règlements pour qu'on puisse travailler en ce sens-là, parenthèse. Mais en même temps, il faut pas non plus enlever tous les outils humains que 4 arbitres doivent accomplir sur une patinoire.
T'as raison,
si
Martin.
Si on n'est pas pour faire ça, là, ben qu'on les sorte complètement.
Ben oui, on n'est pas pour en mettre 6.
Des juges vidéo.
Ben oui, on n'est pas pour en mettre 6 ou 7 sur la glace. Avant, ils étaient 3, puis ils faisaient le travail. Ben, écoute, Martin, c'est tout le temps qu'on a,
oui. Mais...
Ça a encore une fois favorisé les Sharks.
Oui, ben écoute, mais je vous dirais ceci par contre.
Oui.
En guise de conclusion, le capitaine Pietrangelo a été très sévère dans ses propos. Il a probablement oublié que c'est lui qui était en cause sur ce fameux but égalisateur qui a amené le débat en prolongation.
Oui, c'est ça.
C'est lui qui connaît l'erreur qu'il n'aurait jamais dû commettre à ce stade-là du match.
Et Logan Couture n'a pas manqué sa chance, imagine-toi.
Certainement.
Son 14e, incroyable. Merci beaucoup, Martin. Au
revoir. Le débat est lancé, messieurs, puis il va avoir cours à Vancouver cet été.
Ah, ça va jaser là-dessus, c'est incroyable. Et ne tombez pas dans Jérémy, dans la théorie du complot et de la conspiration. C'est pas parce que ça fait 2 fois que les Sharks sont favorisés. Rappelez-vous l'incident Cody Eakin contre les Golden Knights. Non, c'est juste un hasard. Écoute, information importante, je veux que tu m'en dises plus. La vente des Alouettes.
Oui.
La vente des Alouettes de Montréal serait imminente.
Hier, du côté de TSN, il y a le collègue Tony Marinaro qui a indiqué que le commissaire Tony Ambrosi avait rencontré l'homme d'affaires Vincent Guzzo, mais aussi Danny Machocha. Donc, Monsieur Ambrosi, moi, je suis en mesure de vous confirmer avec les informations que j'ai eues aujourd'hui que cette rencontre a bel et bien eu lieu et que l'intérêt est mutuel entre Vincent Guzzo et la Ligue canadienne de football pour qu'on puisse procéder à cette transaction. Selon mes informations, il y a toujours 4 hommes d'affaires intéressés à l'achat des Alouettes, mais Vincent Guzzo serait en tête dans cette course-là. Et on aurait même indiqué du côté de la Ligue canadienne de football que s'il désire l'équipe, on va lui donner. Donc, le désir est vraiment mutuel pour que cette transaction-là ait lieu. Je peux même vous confirmer que des négociations se sont poursuivies aujourd'hui. Donc, c'est un dossier imminent. On sait que la Ligue canadienne veut régler cela avant le début de la saison régulière, qui est dans un mois. Un dossier vraiment à suivre et on va développer vraiment en long et en large ce soir aux amateurs de sport avec Mario Langlois aussi.
Oui, merci beaucoup, Jérémy.
Salut. Demain.